Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto.
Hugues, cette semaine, tu nous parles d'une voiture qui a toujours été un peu une curiosité pour moi. Un énième échec commercial pour Cadillac et une voiture que je trouvais pas vilaine mais qu'on a complètement oubliée, c'est la Cadillac Catera.
Alors oui, la Cadillac Catera vient dans un contexte un peu spécial parce que les années 80 ont été difficiles pour Cadillac. Il y a eu la Cimarron, la Lente, les désastreux V8-6.4, les affreux moteurs diesel, le V8 acheté 4100. Bref, tout
le
ça.
Le North Star qui pissait pas l'huile du tout.
Qui sent bien, ouais, voilà. Donc, l'image de Cadillac est pas bonne du tout. Ouais. Et pendant ce temps-là, les marques de luxe européennes montent en puissance. Et ça, c'est juste les années 80. Les années 90 ne démarrent pas mieux. Il y a Lexus, il y a Infiniti et Acura qui a déjà trouvé sa place en 86.
Voilà.
Autant dire que ça se passe pas bien. Donc là, il fallait faire absolument quelque chose.
Bon, et là, t'as Cadillac qui va piger dans la boîte à outils de General Motors à l'international pour trouver une solution. Essentiellement, c'est ça.
Ben, c'est ça. En fait, ils sont allés piger en Europe. Il y a un point important qui est à faire. En Europe, à l'époque, il y a une distinction majeure entre les constructeurs généralistes et les spécialistes. En gros, les marques de luxe et de sport.
Ouais.
Dans les années 70-80, les généralistes ont des voitures haut de gamme, pleine grandeur, Ford à la Granada et la Scorpio, Renault la 30 et la 25, Peugeot les 505 et 604.
Ouais.
Et chez Opel, qui est donc une filiale de GM, le haut de gamme s'appelle Rockor, Commodore, Senator. C'est des berlines solides, mais extrêmement conventionnelles.
Bon,
en 86, Opel entend moderniser son image parce que là ils ont une image un peu pépère et on sort des records Commodore Senator, les voitures sont remplacées par l'Omega, la voiture est complètement nouvelle, design aérodynamique et elle remplace, elle remporte le titre de voiture européenne de l'année 87.
Ah ouais. Okay.
Et c'est un beaucoup de succès commercial en Europe. Elle est remplacée en 94 par une deuxième génération d'Omega. Et à la fin des années 90, les généralistes ont pratiquement tous abandonné le segment du haut de gamme pour laisser la place à Audi, BMW et Mercedes. Et l'Omega terminera sa carrière dans un oubli quasiment complet en 2004.
Mais là, évidemment, Cadillac a besoin de modifier son image. On a besoin de se défaire de cette image de voiture de grand-papa qui colle avec les Deville, les Eldorado. Bon, puis on a essayé avec la Séville, mais plus ou moins réussi.
C'est ça.
Bon, c'est pas nécessairement évident. Alors, on présente un concept, essentiellement, qui est basé sur cette Opel Omega.
Voilà. L'idée, c'est simplement d'aller chercher des acheteurs plus jeunes. La moyenne d'âge de la marque, elle augmente régulièrement, c'est jamais bon pour l'avenir. Et les jeunes, à ce moment-là, n'en ont plus que pour les Allemandes et les Japonaises. Donc, à ce moment-là, il faut lancer quelque chose. GM se dit, on a des ressources à l'international, on va aller voir en Allemagne. Alors, effectivement, sur le papier, l'Omega de seconde génération coche toutes les bonnes cases. Propulsion, moteur V6, excellent accueil en Europe. Donc, pourquoi ne pas essayer ? Cadillac présente un concept au Salon de Détroit 94, un petit peu pour tâter le terrain.
Ouais.
C'est une Omega avec une grille redessinée, des feux arrière changés, et c'est tout. Et là, apparemment, la réaction du public est bonne, puisque la voiture est présentée à l'automne 96.
Mais bon, la Catera, ça n'a pas été une voiture vraiment, vraiment modifiée. On a pris une Opel, puis on l'a essentiellement rebadgée en changeant les roues, quelques éléments esthétiques, mais c'est tout. Là. C'est pas, y a rien de révolutionnaire là-dedans. Là.
Non. En fait, c'est une vraie voiture européenne. Ce qui est intéressant, c'est que le moteur vient de Portlaoise en Angleterre, la boîte de vitesse vient de Bordeaux en France, le tout est assemblé sur les lignes d'Opel à Rüsselsheim en Allemagne. Donc, pour une voiture américaine, on en est loin. Par contre, la Catera est bien équipée pour l'époque, avec un V6 3 litres de 200 chevaux, ce qui est plutôt bien par rapport au BMW 328, C280 chez Mercedes et Lexus ES 300. Elle souffre d'une boîte automatique qui n'a que 4 rapports
et
un poids plutôt élevée. Elle fait 1710 kg, 300 de plus qu'une BMW 328i. Autant dire que pour la tenue de route, ça va pas aider. Elle a aussi des lignes quelconques. Alors, il y a une histoire. Il paraîtrait que certains clients potentiels la confondaient avec une Chevrolet Malibu en concession.
Oups,
ça part pas bien. Par contre, plutôt une bonne tenue de route et une excellente habilité. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que tous les journalistes sont sur la même longueur d'onde. La marche va être haute pour Cadillac. Et je vais lire une citation du guide de l'Auto 97 ouais. qui dit « Le plus difficile reste à faire. Il n'est pas évident que la Cadillac réussira à convaincre les gens que la Catera est une voiture intéressante. Si elle y parvient, ce sera le tour de force de la décennie dans le domaine du marketing automobile. Qu'on le veuille ou non, une Mercedes ou une BMW impressionne davantage la galerie. » Donc là, il va falloir que la promotion, elle soit sur la coche.
Et ce n'est pas nécessairement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé?
Eh ben non, évidemment. On le voyait venir. Cadillac a voulu faire jeune. Alors, ils ont sorti une idée farfelue. À l'époque, le logo traditionnel de Cadillac, basé sur le blason de la famille d'Antoine de la Motte Cadillac, fondateur de Détroit, comprend 6 oiseaux. Et l'agence de publicité en charge du projet n'a rien trouvé de mieux que de transformer un de ces oiseaux en cartoon, de le nommer Ziggy et d'en faire la mascotte de la Catera. Alors sur la brochure américaine, là encore je vais citer, on peut lire « Ziggy est né en Allemagne ». Sa mission est de faire zigzaguer Cadillac dans une toute nouvelle direction. Ce fougueux ami à plumes symbolise le nouvel esprit de la Catera. Légèrement sophistiqué, toujours irrévérencieux, il présente une toute nouvelle génération de luxe pour une toute nouvelle génération de conducteurs. Venez faire un tour, ça va être amusant.
On me dit à l'oreille qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa job là-dedans.
OK, clairement, clairement, c'est une catastrophe.
Bon, la Catera est arrivée sur le marché en 1997. Elle a quand même été commercialisée pendant un certain temps. Malgré ce départ un peu boiteux, on l'a étirée longtemps, cette voiture-là.
Ben c'est ça. La voiture, elle va évoluer un petit peu. 98, système ABS amélioré, nouvelle couleur, nouveau système audio. En 99, ensemble sport optionnel avec une suspension plus ferme et un contrôle de niveau automatique, des roues de 16 pouces. En 2000, un petit léger restylage des faciès avant et arrière qui suit le même restylage de l'Omega B en Europe. Nouvelle console centrale. Et il est à noter que Cadillac avait à ce moment-là quelques projets intéressants. En mars 99, ils ont montré au salon de l'auto de Chicago un concept de Catera survitaminé, préparé avec le préparateur allemand Steinmetz, qui est spécialisé dans les Opel. Couleur orange, roue de 18 pouces, suspension rabaissée. V6 à compresseur et on passe de 200 à 284 chevaux.
Ok.
Encore plus intéressant, en Europe, Opel avait glissé un V8 LS1 2.5 litres 7 sous le capot de l'Omega. Oui, oui. Et ce modèle a failli être mis en vente. C'est une belle occasion manquée. Et de toute façon, on savait que ce châssis pouvait prendre les V8 puisqu'il était aussi utilisé en Australie.
Et avec les Holden.
Et voilà, ils mettaient des Holden. Et donc, la production de la voiture se termine à la fin de 2001 avec moins de 95 000 exemplaires vendus aux États-Unis. Autant dire, pas grand-chose.
Bon, évidemment, à chaque fois que General Motors a lancé une voiture en Amérique du Nord, mais qui provenait soit d'Europe ou d'Angleterre, moi, j'ai toujours considéré que c'était une mauvaise idée parce que les outillages qu'on a chez les concessionnaires, les mécaniciens ne sont pas habitués de travailler là-dessus. Mm-hmm. C'est des voitures souvent plus capricieuses qui demandent davantage de connaissances de la part des techniciens. Et la Catera n'a pas fait exception. Donc, ça a été jugé une voiture très peu fiable, même si dans les faits, c'était peut-être pas si mauvais que ça, mais on n'était juste pas habitué de travailler là-dessus.
Ben en fait, si, y a déjà ce problème-là, effectivement, mais c'était de toute façon une voiture pas fiable. Consumer Reports l'a confirmé noir sur blanc. C'était une bonne voiture, dit le magazine, mais en proie dès le départ à des problèmes de fiabilité, c'est clair. Fuite d'huile, fuite de liquide de refroidissement divers, problème de capteur de position du vilebrequin, fuite de pompe à eau. Et apparemment, le plus gros problème était la défaillance de la poulie du tendeur de courroie de distribution. Alors là, quand ça lâchait, eh ben, soupe à la soupape tordue ou mort subite du moteur.
Ouais.
Autant dire que c'était joyeux. Donc évidemment, tout ça, ça s'est vu. À partir de là, les valeurs de revente ont fait le plongeon. Ouais. Et quand les retours de location ont commencé, ben GM s'est retrouvé avec des voitures qui étaient absolument invendables dans leur parking.
Bon, évidemment que GM, à partir du moment où on a commercialisé cette voiture-là puis qu'on savait que c'était un échec, on était déjà en train de travailler sur celle qui allait la remplacer et qui, elle, a donné une première vraie nouvelle image à Cadillac à partir de 2002-2003, puis c'est la CTS. Là.
Exactement. En fait, ça a été la leçon...
Qui a reçu un 5 litres 7, d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Et ça, ça a été la leçon de Cadillac à force de chercher à faire, de patcher à gauche et à droite, de récupérer des trucs, mais finalement, de ne pas essayer de retrouver l'âme de la marque. La Catera, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Cadillac a dit c'est fini, on arrête, on va débloquer un budget, on va débloquer une nouvelle stratégie avec un nouveau langage de design, des nouvelles plateformes, on repasse à la propulsion, on va faire des produits américains. Et puis, en fait, s'il n'y avait pas eu Ziggy et la Catera, Cadillac n'aurait pas été revitalisé et qui sait si la marque existerait encore aujourd'hui. Donc il y a un petit peu de bon dans tout le mauvais de cette histoire.
Bon, la CTS, c'est pas une voiture qui, aux yeux des gens, est passée nécessairement à l'histoire, mais ça a été un souffle immense chez Cadillac au début des années 2000. Parce qu'à cette époque-là, c'était sur le respirateur artificiel. On ne vendait plus de Deville, de Séville, de tout ça.
Et puis la clientèle continuait à vieillir régulièrement. Donc là,
et
ça allait...
Ironiquement, parallèlement, le seul produit qui se vendait un peu puis qui donnait une espèce d'essor à Cadillac, c'était l'Escalade.
Exactement.
Qui était arrivé à la fin des années 90 et qui a fêté son 25e anniversaire d'ailleurs tout récemment, un produit qui a quand même connu, qui connaît encore beaucoup de succès et qui est surtout très 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 payant pour la division Cadillac.
Extrêmement rentable.
Si un véhicule payant avance, c'est probablement celui-là.
Oui.
Alors c'était la Cadillac Catera.